Aujourd'hui, on lit pour toi
les As de l'info. Des drones pour transporter des dons de sang. Un texte paru le 13 février 2026 dans Québec Science. Les drones volants pourrait améliorer l'efficacité du transport de dons de sang entre les points de collecte et les laboratoires de traitement. Tu as probablement déjà croisé l'une de ces cliniques mobiles d'Emma Québec dans un centre commercial. Des gens peuvent y donner un peu de leur sang pour alimenter les banques de sang des hôpitaux. Mais as-tu déjà imaginé le destin de la poche de sang une fois l'aiguille retirée? Dès cet instant, une véritable course contre la montre s'amorce. Hors du corps humain, ce tissu liquide est extrêmement fragile. Il doit être maintenu à une température stable et acheminé rapidement vers le laboratoire de traitement. C'est là que le précieux fluide sera fractionné en ses divers composants, plasma, globules rouges et plaquettes. Le défi est particulièrement grand pour les plaquettes qui doivent être traitées dans un intervalle critique de 6 heures après le prélèvement. Or, en milieu urbain, cette logistique peut être mise à l'épreuve par les bouchons de circulation. Chaque minute perdue dans un embouteillage dégrade la viabilité des échantillons. Pour remédier à cette contrainte, une équipe de recherche de l'Université Concordia à Montréal s'est penchée sur une façon d'optimiser le transport des échantillons. Leur solution, d'une simplicité apparente, cache une logistique complexe. Utiliser la voie des airs à l'aide de drones. À l'aide d'algorithmes complexes, ce que les scientifiques appellent une matheuristique, l'équipe a modélisé un système où les drones servent de navette rapide entre les sites de collecte et le laboratoire. Ce modèle calcule en temps réel le trajet optimal à vol d'oiseau, tout en prenant en compte le temps écoulé depuis chaque prélèvement. L'idée n'est pas de remplacer les camions, mais de les faire travailler avec les drones. Les véhicules roulants restent indispensables pour transporter de grandes quantités de dons et servent de point de départ aux appareils volants. Ils ont aussi des avantages importants. Ils ne dépendent pas d'une batterie et permettent un meilleur contrôle de la température des échantillons. Lors d'une collecte dans la ville de Québec, les scientifiques de Concordia ont pu tester leur modèle. Les drones permettaient de relier 13 points de collecte avec le laboratoire central. Les résultats montrent que les drones améliorent significativement l'efficacité du transport des dons de sang, notamment en réduisant les délais et en optimisant les trajets. En fin de compte, cela permet d'assurer la livraison de sang frais et de meilleure qualité. Pour l'instant, les unités mobiles continueront d'opérer sans l'aide complémentaire de drones. À plus long terme, cette collaboration pourrait rendre le transport des dons de sang plus rapide et efficace. Peut-être qu'un jour, ton propre don de sang voyagera par la voie des airs. Et toi, que transporterais-tu avec des drones?
Oui, bonsoir monsieur, ça pour commander 80 pizzas s'il vous plaît.
Les demandeurs d'asile, qu'est-ce que c'est? Un texte de Marie Bernier, paru le 31 mars 2026 dans les As de l'info. Il est beaucoup question dans l'actualité des demandeurs d'asile. Certaines personnes trouvent qu'ils abusent du système. Des politiciens veulent leur couper certains services, comme les garderies payées par le gouvernement. Mais les demandeurs d'asile, c'est qui au juste? La journaliste Sarah R. Champagne, qui couvre l'immigration au journal Le Devoir, répond à toutes nos questions. Sarah, c'est quoi un demandeur d'asile? C'est une personne qui, en arrivant au Canada, demande une protection parce qu'elle est menacée dans son pays d'origine, par exemple à cause de sa religion ou de ses opinions politiques. Si le Canada accepte, elle deviendra un réfugié, mais en attendant la réponse, c'est un demandeur d'asile. D'où viennent les demandeurs d'asile? En ce moment, au Québec, ils viennent surtout d'Haïti, du Nigeria, du Ghana, de l'Algérie et de la Guinée. Mais il y en a vraiment de partout. Si un pays entre en guerre ou se retrouve sous un gouvernement très autoritaire, il se peut qu'il y ait plus de gens qu'il fuit pour venir s'installer au Canada. Tu as rencontré des demandeurs d'asile. Quelle est leur histoire? Récemment, j'ai rencontré un Camerounais qui avait demandé la protection du Canada parce qu'il est homosexuel. C'est interdit au Cameroun. Il avait été jeté en prison et même torturé parce qu'il voulait être en couple avec un homme. J'ai aussi rencontré une Iranienne qui avait participé aux grandes manifestations pour le droit des femmes en Iran. Elle avait ensuite reçu des textos très menaçants pour elle et sa famille. Est-ce qu'il y a des enfants demandeurs d'asile? Oui. Environ 20% des demandeurs d'asile sont des enfants. La plupart arrivent avec leurs parents, mais il y a de plus en plus de mineurs qui arrivent au Québec sans être accompagnés. En 2024, ils étaient environ 200. Ce ne sont pas des tout-petits. Ils ont 16, 17 ans. Ils proviennent surtout d'Haïti, de l'Inde et du Congo. Est-ce que tout est gratuit pour eux quand ils arrivent au Québec? Si quelqu'un n'a nulle part où aller, il sera hébergé pendant quelques semaines dans un refuge ou à l'hôtel. Les demandeurs d'asile ont aussi accès aux soins de santé, à l'école gratuite pour les enfants et à l'aide juridique pour qu'un avocat les aide dans leur démarche. Ils peuvent aussi obtenir l'aide sociale, qui est un chèque minimal donné par le gouvernement pour payer le loyer et acheter un peu de nourriture. Fait intéressant, les demandeurs d'asile restent 10 fois moins longtemps sur l'aide sociale que les autres bénéficiaires. Ça dure souvent un peu moins d'un an et c'est en attendant de trouver un emploi. Le politicien de la CAQ, Bernard Drinville, dit que le Québec paye trop pour les demandeurs d'asile. Tu en penses quoi? Comme journaliste, ce n'est pas mon rôle de donner mon opinion. Ce que je trouve quand même important de rappeler, c'est que les demandeurs d'asile ne sont pas juste des fardeaux pour la société. Plus de 70% d'entre eux ont un permis de travail. Ce sont des gens qui vont occuper un emploi, payer des impôts comme les autres résidents du Québec, et ces impôts financent des services en retour. De plus, le gouvernement du Québec reçoit des milliards de dollars du Canada pour rembourser les dépenses liées aux demandeurs d'asile. Gardons aussi en tête que, même si on entend souvent qu'on accueille beaucoup de demandeurs d'asile, ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est qu'une infime partie des déplacés dans le monde. En 2025, le Canada a reçu un peu plus de 100 000 demandes d'asile, alors qu'il y avait plus de 100 millions de nouveaux réfugiés dans le monde. Quelle serait ta solution si tu étais ministre de l'Immigration? Je reconnais que c'est très difficile d'être au pouvoir et je n'ai pas de baguette magique, mais je trouve qu'énormément d'attention a été mise sur les demandeurs d'asile sans qu'on les entende, eux. Ceux que je rencontre sont généralement un peu gênés. Ils ne veulent pas avoir l'air ingrat envers le gouvernement. Ils sont en général très contents d'être ici et volontaires pour contribuer à notre société. Et toi, as-tu des idées de solutions? Devrait-on accueillir plus ou moins de demandeurs d'asile, à ton avis?
Bien sûr que oui.
Mais c'est bien sûr.
Bien sûr, il y a les guerres d'Irlande et les peuplades sans musique. Bien sûr, tout ce manque de tendre, et il n'y a plus d'Amérique. Bien sûr, l'argent n'a pas d'odeur, mais pas d'odeur vous monte au nez. Bien sûr, on marche sur les fleurs, mais voir un ami pleurer. Bien sûr, il y a nos défaites, et puis la mort qui est tout au bout. Le corps incline déjà la tête, étonné d'être encore debout. Bien sûr, les femmes infidèles et les oiseaux assassinés. Bien sûr, nos cœurs perdent leurs ailes, mais voir un ami pleurer. Bien sûr, ces villes épuisées par ces enfants de 50 ans, notre impuissance à les aider, et nos amours qui ont mal aux dents. Bien sûr, le temps qui va trop vite, ces métros remplis de noyés, la vérité qui nous évite, mais voir un ami pleurer. Bien sûr, nos miroirs sont intègres, ni le courage d'être juif, ni l'élégance d'être nègre. On se croit mèche, on n'est que suif. Et tous ces hommes qui sont nos frères, tellement qu'on n'est plus étonné que par amour ils nous lacèrent. Mais voir un ami pleurer.
Les larmes de la mairesse. Un texte de Marie Bernier, paru le 27 mars 2026 dans les As de l'Info. Une photo de la mairesse de Montréal, Soraya Martinez-Ferrada, a été publiée dans les médias. On la voyait pleurant à chaudes larmes. Elle pleurait parce qu'elle a annoncé que deux personnes sans abri étaient décédées à Montréal, et cela en l'espace de 24 heures. Il s'agissait de deux hommes, Serge et Valmont. Ils étaient dans un refuge au moment de leur décès. La mairesse était très émue quand elle a parlé d'eux, mais elle était aussi indignée. Elle a déclaré « Ce n'est pas normal qu'on perde des gens en situation d'itinérance quand on a les moyens de les sauver. » Ce que ça signifie, c'est que ce n'est pas normal, dans un pays riche comme le Canada, que des personnes meurent sans avoir un toit. Madame Martinez-Ferrada a demandé que les gouvernements du Québec et du Canada augmentent leur aide à la Ville de Montréal et aux organismes pour faire face à la crise de l'itinérance. Ça doit devenir la priorité la plus importante, a-t-elle lancé. Et toi, est-ce que l'itinérance est une réalité dans ton quartier ou dans ta ville? Qu'est-ce que ça te fait ressentir? Des gorilles gourmets. Un texte paru le 5 décembre 2025 dans le magazine Québec Science. Dans leur forêt d'Afrique, Les gorilles se nourrissent de fruits, de feuilles, parfois d'insectes ou de racines. Des scientifiques ont découvert qu'ils sont gourmets. Ils mangent aussi des truffes. Quand tu penses aux gorilles, tu les imagines peut-être en train de manger des fruits ou des feuilles. Pourtant, dans les profondeurs de la forêt tropicale du Congo, certains gorilles font quelque chose de beaucoup plus surprenant. Ils creusent le sol pour trouver des truffes. Pendant longtemps, les scientifiques ont cru que ces gorilles grattaient la terre pour chercher des insectes. Mais une étude récente, menée pendant près de 10 ans dans le parc national de Nouabalé-Nouki, a complètement changé cette idée. En observant attentivement plusieurs groupes de gorilles des plaines de l'Ouest, les spécialistes ont découvert que leur véritable cible était un champignon souterrain appelé truffe de serre et la fourmicèse labyrinthinus. Ces truffes ne ressemblent pas à celles qu'on trouve dans les restaurants chics, mais pour les gorilles, elles sont très intéressantes. Elles sont riches en nutriments et poussent sous terre. Les gorilles les repèrent, grattent le sol avec leurs mains puissantes, puis les mangent directement. Quand un gorille gratte le sol puis porte sa main à sa bouche, c'est la preuve qu'il a réussi sa chasse. Encore plus fascinant, tous les gorilles ne cherchent pas des truffes de la même façon. Dans certains groupes, ce comportement est fréquent. Dans d'autres, il est presque absent. Une femelle, observée par les scientifiques, a même commencé à creuser davantage après s'être jointe à un nouveau groupe. Cela suggère que les gorilles peuvent apprendre les uns des autres, un peu comme une transmission culturelle. Cette découverte montre que les gorilles sont plus intelligents et plus adaptables qu'on ne l'imaginait, et elle aide les scientifiques à mieux protéger leur habitat. Car comprendre ce que mangent les gorilles, c'est aussi savoir où et comment préserver leur forêt. Le gorille peut se servir de ses pattes pour saisir des objets. Bien que sa tête soit plus grosse, son cerveau est plus petit que celui de l'humain. Savais-tu que les gorilles détestent l'eau ou la pluie? Qu'ils craignent les insectes? De plus, savais-tu qu'ils ont une mâchoire tellement puissante qu'ils peuvent mordre plus fort que les lions? Et toi, as-tu déjà goûté aux truffes? Les Romains de l'Antiquité étaient-ils tous empoisonnés au plomb? Un texte paru le 24 avril 2025 dans le magazine Québec Science. Une nouvelle recherche démontre qu'au temps de l'Empire romain, l'air était fortement pollué au plomb. Suffisamment pour intoxiquer les habitants de toute l'Europe et réduire leur quotient intellectuel. Connais-tu le saturnisme? C'est une maladie étrange qui survient lorsque notre organisme contient une quantité trop grande de plomb. À cause de notre environnement, nous avons tous un peu de plomb en nous, mais s'il est présent en trop grande concentration, il provoque de nombreux problèmes, dont des déficits cognitifs, des problèmes de santé comme des maladies cardiaques et une immunité réduite, ainsi que des problèmes de comportement comme une propension accrue à la violence. Le saturnisme tire son nom de la planète Saturne, qui est le symbole du plomb en alchimie. Et cette intoxication au plomb est connue depuis de nombreux siècles. L'époque romaine, surtout, est réputée pour des pratiques qui favorisaient le saturnisme, surtout chez les gens plus fortunés. On mangeait et buvait dans de la vaisselle et des coupes en plomb. Les tuyaux des aqueducs étaient en plomb. On sucrait la nourriture avec de l'acétate de plomb et l'on se maquillait avec du fard à joues à base de céruse de plomb. Sans oublier qu'on manipulait des pièces de monnaie, des bijoux et de nombreux autres objets en plomb. Mais voilà qu'une étude démontre que les intoxications au plomb frappaient non seulement l'aristocratie, mais également le petit peuple. En analysant des échantillons prélevés dans des glaciers en Arctique, on a pu repérer un pic de la concentration de plomb dans l'air en Europe autour de l'an 200-300 de notre ère. En comparaison, le plomb atmosphérique à cette époque atteignait le triple de la concentration de plomb dans l'air actuellement aux États-Unis. Il y avait à l'époque romaine un vaste système économique basé sur les métaux, incluant le plomb. L'expansion de l'Empire était d'ailleurs motivée en grande partie par la recherche de nouveaux gisements de métaux. Donc, l'élite s'intoxiquait allègrement au plomb par la nourriture et l'eau qu'elle buvait, mais les milieux ruraux étaient aussi exposés par l'air ambiant. Dans ce cas, la pollution provenait des procédés miniers et d'extraction du plomb. À partir des données trouvées dans les glaciers de l'Arctique, les scientifiques ont extrapolé les concentrations atmosphériques sur toute l'Europe. Et en se basant sur nos connaissances actuelles des liens entre le plomb atmosphérique et le plomb sanguin, ils ont évalué que les enfants de l'époque avaient un taux de plomb sanguin moyen de 34 microgrammes de plomb par litre. Pour comparaison, durant la préhistoire, le taux naturel était de 10. Au-dessus de 25, on parle de concentration anormale. À 50, on parle de saturnisme. Donc, de nombreux enfants européens étaient touchés, partout sur le territoire. Les scientifiques estiment que le QI moyen des Européens à cette époque était plus bas de 3 à 4 points. Certains ont proposé dans les années 60 que le déclin de l'Empire romain pourrait s'expliquer par cette intoxication généralisée des Romains. Mais on sait maintenant que ce déclin a été multifactoriel, notamment l'arrivée de peuples du Nord, les fameux barbares. Mais ça n'a sûrement pas aidé. Comprendrons-nous bientôt le langage des dauphins? Un texte paru le 24 avril 2025 dans le magazine Québec Science. On nage en pleine science-fiction. La compagnie Google a annoncé qu'elle travaille avec des biologistes pour développer une intelligence artificielle pour décoder le langage des dauphins. Et c'est du travail sérieux. Tu le sais déjà. Les dauphins, les bélugas et les autres cétacés communiquent entre eux par des sons qui peuvent voyager sous l'eau sur des distances impressionnantes. De toute évidence, ces animaux discutent, s'échangent des informations. Mais pourrais-tu comprendre ce qu'ils se disent? Encore mieux, pourrais-tu dialoguer avec eux? Exploitée au cinéma et dans la fiction, l'idée de converser avec les dauphins n'a jamais été si près de se concrétiser. Google DeepMind, la branche de la compagnie Google dédiée à la recherche sur l'intelligence artificielle, IA, travaille sur un modèle d'IA baptisé Dolphin Gemma et qui vise à déchiffrer la communication des dauphins. C'est un peu comme si on essayait de décoder une langue étrangère, sauf que ce sont des dauphins qui parlent. Google DeepMind travaille en partenariat avec le Wild Dolphin Project, un programme scientifique dirigé par la biologiste Denise Herzing, Floride, qui étudie avec son équipe une population de dauphins dans les Bahamas depuis 1990. Ils ont accumulé des milliers d'heures d'enregistrement audio dans leur environnement naturel. Et c'est cette base de données incroyable qui sert maintenant à entraîner l'IA. Pour l'instant, on n'en est pas à la traduction au sens strict. Le modèle d'Alfenkema est une sorte de grande oreille, très sophistiquée, qui analyse d'énormes quantités de sons produits par les dauphins et essaie d'y repérer des motifs, des structures, comme on le ferait en analysant un langage. L'idée, c'est de détecter s'il existe une grammaire ou une logique dans leurs échanges sonores. Pourrait-on parler avec un dauphin? C'est le rêve ultime, et il y a encore beaucoup d'étapes à franchir. Pour l'instant, on est encore loin d'une vraie conversation, mais qui sait? Avec l'aide de l'IA, peut-être qu'un jour, on pourra vraiment dialoguer avec un dauphin. Que lui demanderais-tu? C'était « Comprendrons-nous bientôt le langage des dauphins ?» un texte paru le 24 avril 2025 dans le magazine Québec Science. C'était Gilbert. À une prochaine lecture.
C'est tout pour aujourd'hui.
Merci à Gilbert, Christiane, Louise, Mathieu et Carlo.
On se retrouve la semaine prochaine.